Seigneur Jésus-Christ, nous sommes là à ton écoute. Nous sommes tous des enfants devant toi. Nous sommes des enfants de Dieu. Aide-nous à entendre. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à grandir, Seigneur, non seulement aujourd'hui, mais en cette année. À grandir dans ton amour, à grandir dans ta vérité, à grandir dans ta sainteté, Seigneur, par la grâce de ton esprit, pour l'amour de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut passer toute notre vie chrétienne en ayant lu deux évangiles, en ayant entendu parler de trois choses, mais en se disant « bof, la Bible, je ne connais pas très bien ». J'aimerais vous mettre au défi, dans la mesure du temps que vous avez, de lire autant que possible la Bible cette année. Autant que possible. Ça veut dire que ces plans vont être adaptables à vos possibilités. Ici, vous avez le premier plan qui s'appelle « Lecture de la Bible en un an ». Chaque jour, vous avez 4 chapitres. Pour ceux qui le peuvent, je vous inviterai à lire les 4 chapitres et vous allez voir, je vais donner ensuite des conseils pour comment lire. Pour ceux qui ne peuvent pas, si possible, choisissez un chapitre chaque jour. Choisissez un chapitre. Dites-vous, tiens, aujourd'hui je vais lire un de ces chapitres-là et vous continuez. Vous pouvez dire, par exemple, vous allez voir que les livres sont dans la suite. Les 4 colonnes de textes bibliques se suivent. Donc par exemple, il va y avoir une colonne qui commence avec Genèse et qui va traverser tous les premiers livres de la Bible. La deuxième, c'est Genèse 1 pour janvier, vous voyez, qui va continuer jusqu'à Genèse 32, 40 et qui continuera. La deuxième colonne, ça va être la colonne du Nouveau Testament qui va passer en 6 mois tout le Nouveau Testament. La troisième, Esdras, ça fait partie des livres historiques et qui va continuer dans l'Ancien Testament un peu plus loin. Et la quatrième colonne, ça va être la colonne des actes et des épîtres. Donc la deuxième colonne, c'est la colonne des évangiles. Vous allez avoir les 4 évangiles. La quatrième, c'est les actes jusqu'aux épîtres. Alors vous aurez le temps de regarder plus en détail cela, mais juste pour vous dire, avec ce plan, si vous suivez, il y a dans toute cette année, tous les livres bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, le Nouveau Testament 2 fois et les psaumes 2 fois. Une des choses, des fois, c'est que vous vous dites, je vais commencer à lire la Bible. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre à la Genèse. Alors ça, c'est le deuxième graphique que vous pouvez... Le deuxième texte, vous voyez, il a recto verso, avec des cases. Alors des fois, on commence de manière pieuse, et on se dit, je vais commencer par Genèse. En général, Genèse, ça va bien. On commence. Ensuite, on continue avec Exode. Ah, Exode, c'est très intéressant jusqu'au chapitre 14-15, mais vers les chapitres 18-19, on commence à avoir... Il va y avoir le décalogue, les 10 commandements, au chapitre 20... Et après, il y a l'histoire de construire le tabernacle. Il y a les abris du prêtre, comment construire, avec combien de poteaux. Et la plupart des gens se disent, mais c'est pas très facile. Si on n'a pas d'aide pour comprendre, c'est difficile à suivre. On continue. On arrive à Lévitique. Là, on se casse les dents dessus. Aïe ! C'est le troisième livre de l'Ancien Testament, Lévitique. Et à Lévitique, on se dit, oh là là, sacrifice, Jésus est le sacrifice parfait, ça m'intéresse pas. Combien de personnes ont essayé de lire la Bible et tout d'un coup ils se disent « ça ne m'intéresse pas, je ne vois pas très bien l'intérêt » et votre but n'est pas d'accomplir un haut fait en disant « j'ai réussi à lire toute la Bible, je me rappelle de rien, j'ai rien compris mais je l'ai fait ». Franchement, ça ne va pas vous faire grandir ni en amour, ni en sainteté, ni en vérité. Ce qui va vous faire grandir, c'est de comprendre. C'est pour ça qu'il y a une approche qui s'appelle l'approche de lecture biblique en un an de McShane qui mélange Ancien et Nouveau Testament. McShane était un monsieur d'Angleterre, d'Écosse plus précisément, et il avait réfléchi comment aider les gens à lire la Bible de manière à la fois qui permette de parcourir tous les textes, tout en regardant finalement un éveil pour des chrétiens qui ne sont pas habitués à l'Ancien Testament. Donc combiner Ancien et Nouveau Testament, ce qui vous permettra de voir plus facilement les liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc vous avez ces deux textes, ces deux graphiques. Le premier, c'est la lecture de McShane. Le deuxième, c'est la liste de tous les chapitres de la Bible, du début à la fin. Le but de celui-là, c'est qu'en même temps que vous lisez un texte biblique, vous prenez un crayon et vous cochez la case. Vous pouvez mettre votre nom, si vous êtes plusieurs à la maison, pour ne pas vous tromper, et vous cochez la case de tous les chapitres bibliques que vous avez lus. Et progressivement, vous dites, j'essaye de parcourir le maximum d'endroits de la Bible en fonction de l'emploi du temps que j'ai, pour arriver finalement à une connaissance du texte biblique plus forte. Parce que la connaissance de la Bible est quelque chose de fondamental. Vous pouvez vous dire, je m'appuie sur le pasteur, c'est lui qui sait, quand j'ai un problème, je vais le voir. D'accord ? Le pasteur, il ne sera pas toujours là. Et j'aimerais vous rappeler le temps où Jésus a jeûné. Il a jeûné pendant 40 jours. C'était une attitude de prière, de consécration et de préparation pour son ministère. Et quand il était dans le désert, le diable est venu à lui. Et il lui a dit, mais tu as faim, Jésus. Et au bout de 40 jours, ça fait un peu long. Hein. Je regardais encore hier les temps de jeûne. En général, quand vous jeûnez, 21 jours sans nourriture, si vous buvez, ne pose pas de problème. Si vous ne faites pas d'efforts physiques intenses, si vous faites des efforts physiques forts, évitez. Ça serait, Anton, je ne te conseillerais pas ça pendant 21 jours, à travailler sur les toits. Par contre, si quelqu'un ne fait pas trop d'efforts physiques, on peut jeûner 21 jours physiquement sans que ça soit un problème. Pour les Occidentaux, pour les gens, c'est choquant. On se dit, mais 21 jours, ce n'est pas possible. Il y a même des gens qui font des cliniques de jeûne, pour ceux qui ont peur, où ils vont jeûner plusieurs jours pour différentes raisons. Des fois, c'est pour maigrir, des fois, c'est pour se détendre, etc. Sans eau, combien de jours à votre avis ? 3 jours. Essaye pas 7 jours. Théoriquement, c'est faisable, mais en général, c'est 3 jours. 21 jours sans nourriture, 3 jours sans eau, et combien de temps sans respirer ? Une minute, 2 minutes, évitez. Donc concrètement, quand il y a une démarche de jeûne, c'est des choses à savoir, du bon sens. Mais le jeûne est toujours, la question c'est pourquoi on ferait ça. Jésus, c'était très clair, c'était pour prier pour sa communion avec Dieu. Et en même temps qu'il priait, au bout de 40 jours, il y a le diable qui est venu le voir, qui lui a dit, hey, Jésus, t'as faim, hein ? T'es le fils de Dieu, je le sais, tu le sais, nous le savons. Tu es capable de faire ce que tu veux. Vas-y, dis à ces pierres de devenir des pains. Et à ce moment, Jésus sort de sa poche sa Bible et dit, attends diable, je vais regarder. Je crois que mon père disait quelque chose par rapport à ça dans un livre. C'était où ? Nouveau Testament, ça n'existe pas encore. L'Ancien Testament, où est-ce que c'est déjà ? Oh, ça doit être dans la Torah. Oui, mais c'est 5 livres. Alors, il dit, attends diable, donne-moi une minute. Est-ce qu'il a fait comme ça, Jésus ? Vous imaginez s'il avait dû faire comme ça ? Il n'aurait pas pu réagir. Dans la vie de tous les jours, vous êtes confronté à des défis, des questions. Si vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne pourrez pas répondre de manière adaptée. Il y a un collègue qui vous posera une question, quelqu'un à la maison, quoi. Des fois, vous aurez le temps de méditer pour donner votre réponse. Des fois, vous n'aurez pas le temps. Votre connaissance de la parole de Dieu sera intimement liée à votre croissance spirituelle. Si vous dites, oh, moi je suis chrétien, je prie, j'aime le Seigneur, et puis j'aime bien l'évangile de Jean. C'est bien, c'est très bien. Mais Dieu n'a pas parlé que dans l'évangile de Jean. Dieu a parlé dans toute la Bible. Le Nouveau Testament, pour nous, sera plus quelque chose qui va nous aider, mais l'Ancien Testament sera à connaître aussi. Et Jésus, quand il a répondu, il n'a pas hésité, il n'a pas dit, je crois que mon père a dit, il a dit, il est écrit. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Est-ce que c'est une nourriture que nous avons décidé de mettre en pratique, de nous nourrir nous-mêmes ? Ou est-ce que c'est quelque chose, on se dit, oui, un petit peu. Bon, la télévision, je peux passer 2 heures devant. Ou me soucier par rapport à tel sujet, je peux me soucier pendant 2 heures. Mais la parole de Dieu, 5 minutes, si possible, si j'ai le temps, le soir avant de m'endormir. Franchement, est-ce que vous croyez que Dieu va vous dire... Bien fidèle et bon serviteur, tu as été fidèle. Vraiment, je suis fier de toi. Ces 5 minutes, tu les as arrachées au diable. Bon, d'accord, tu as passé 2 heures à la TV, mais c'est génial. Vraiment, j'ai vu quelqu'un qui m'aimait et qui voulait vivre avec moi. Imaginez que vous avez une petite amie, que vous êtes jeune, et vous dites à la petite amie, écoute, je dois passer 1 heure avec mes copains, 1 heure aussi à nettoyer ma voiture parce que j'aime beaucoup ma voiture. Mais si tu veux, entre 8h15 et 8h25, on peut prendre 10 minutes à discuter ensemble. Qu'est-ce qu'elle va vous dire, petite amie ? Est-ce qu'elle va rester longtemps avec vous ? Elle va vous dire, écoute, soit tu as envie d'être avec moi, soit tu n'as pas envie d'être avec moi. Et la Bible, c'est pas seulement une technique, c'est une relation qui est en jeu. Donc Bible et prière seront intimement liées. C'est pour ça que je vais vous encourager et je vais vous mettre au défi pendant cette année de lire autant que possible dans une attitude de prière. Combien de temps vous pourrez le faire et combien Dieu va vous bénir à travers cette attitude. Certains ont des contraintes extérieures plus fortes que d'autres. C'est vous qui savez. Je ne suis pas là pour vous dire « Ah, t'as pas lu les quatre textes de hier, t'es un mauvais chrétien ». Je ne suis pas là pour faire ça. Je suis là pour vous servir et vous aider, vous encourager à être fidèle à Dieu. Dieu connaît vos situations et connaît comment vous pouvez le servir et le suivre. C'est pour ça que je vous donne un plan adaptable à votre emploi du temps. Ce que je vais vous demander, c'est dans la mesure du possible, suivez les textes. Quand vous lisez, essayez de lire des textes du jour. Comme ça, vous allez piocher progressivement dans différentes parties de la Bible. Si vous pouvez être régulier sur une colonne, c'est bien. Par exemple, vous pouvez dire « Oh, moi, les premiers livres de la Bible, j'ai jamais lu. » Vous lisez le livre de Genèse. Ou bien vous dites « Les évangiles, j'ai jamais lu les quatre évangiles. » Vous prenez la deuxième colonne et vous lisez Matthieu en janvier, puis vous allez continuer fin janvier par Marc. Matthieu, Marc, Luc, Jean, etc. D'accord ? Donc vous vous adaptez suivant ce que vous sentez qui sera une direction qui vous semble bonne pour vous. Et en même temps que vous lisez, vous cochez dans cette feuille pour savoir où vous en êtes. D'accord ? Maintenant, comment est-ce qu'on lit ? C'est là que vient ce petit signet biblique. Le but, c'est que vous puissiez mettre ça dans votre Bible. Que vous puissiez le mettre et que vous puissiez vous rappeler des points clés. Je vais être honnête avec vous. Ce n'est pas parce qu'on est un chrétien pendant longtemps qu'on ne peut pas oublier ces petits conseils tout bêtes. Parfois, l'an dernier, j'ai lu pas mal de textes et après, je me suis dit, mais j'ai pas prié. C'est pas tout de lire la Bible. Encore faut-il que nous le fassions dans une relation. Lire la Bible, c'est écouter la parole du Père. C'est écouter la parole de Dieu. Mais c'est aussi parler à Dieu. C'est aussi méditer. C'est aussi voir comment mettre en pratique. Et avec ces cinq conseils, comme les cinq doigts de la main, vous pouvez vous rappeler des cinq points. Nous allons regarder la petite image qui se trouve en haut. Vous voyez, il y a un numéro 1 qui se trouve avec quelqu'un qui prie, là c'est Jésus, et une colombe au-dessus, vous voyez bien ? Ça c'est pour le numéro 1, ça sera pour la prière et inviter l'Esprit Saint. Quand vous lisez la Bible, invitez l'Esprit Saint. Invitez l'Esprit Saint, commencez en disant « Esprit Saint, guide-moi, aide-moi à comprendre ». Le deuxième, c'est une Bible ouverte que vous trouvez, ça sera pour la lecture concrète. Troisième, numéro 3, une femme qui est en train de réfléchir. Avec le numéro 3, il est situé où sur le dessin ?
Sur l'oreille.
Sur l'oreille. Parce que réfléchir et méditer est lié d'abord à l'écoute et non pas au contrôle. Des fois, on lit la Bible et on dit « je vais maîtriser, je vais contrôler ». Non, le but quand on lit la Bible, c'est que Dieu nous guide, que nous écoutions bien, que nous entendions bien. La plupart d'entre nous ne savons pas lire. Je vais être honnête avec vous, la plupart d'entre nous ne savons pas lire. Je peux vous mettre au défi facilement. Je vous fais lire un texte et la plupart du temps, vous serez attentif à certains points et vous aurez complètement passé à côté d'autres. Parce que notre esprit a tendance à se concentrer que sur certains points et a du mal à être attentif à tout ce qui est dit. C'est pour ça que la prière sera importante. Et la réflexion. Et le numéro 4, ça va être un nouveau retour sur la pierre qui est liée à la prière de cette personne qui prie. C'est parce qu'on aura à transformer en prière. Et le cinquième, ça sera l'action. Donc, un, prier, deux, lire, trois, réfléchir, quatre, transformer en prière, cinquième, agir. Donc, on peut voir ensemble. Si vous voulez, on va répéter ensemble. Et on va s'amuser à se rappeler, comme ça, comme un jeu. Donc, le premier, c'est prie. Vous pouvez répéter avec moi, un, prie.
Un, prie.
Deux, lis.
Deux, lis.
Trois, réfléchis.
4.
Transforme
en prière.
5. Agis. Est-ce que vous arriveriez à vous rappeler de ce dessin ? Vous voyez le petit monsieur en train de prier en haut ? C'est pour le mot prie. Le deuxième, parole de Dieu à droite. Ça va être lis. Troisième en bas, réfléchis. Quatrième, c'est quoi quatrième ?
Transforme
et prie. Et le cinquième, ça sera agit. On va s'amuser, on va cacher le graphique déjà, et on va voir si vous vous rappelez déjà d'un ou deux. Alors, tout le monde, vous cachez l'image? Voilà. C'est quoi le numéro 1?
Prie.
Prie. C'est quoi l'image pour le numéro 1?
C'est
Jésus qui prie. Jésus qui prie. C'est quoi le numéro 2?
Lit.
Prier et lire. Il y a des gens qui ne font que prier, qui disent « Dieu me parle par son Esprit Saint, j'ai plus besoin de lire. Je peux faire des miracles, Dieu a dit qu'il mettrait son Esprit dans nos cœurs, c'est vrai. » Et vous savez ce qu'il va vous dire l'Esprit? Il va vous aider à vous rappeler de toutes les paroles que Jésus a dites. Et vous savez comment l'Esprit Saint le fait? Il a deux techniques. Première technique directe. Si vous êtes fidèle à Dieu, si vous marchez avec lui, des fois il va vous aider par des paroles directes qui vous rappellera de Jésus. Deuxième méthode qui est la plus classique. L'Esprit Saint va faire quoi? Il va vous dire, t'as pas un bouquin à la maison? T'as pas un bouquin là qui prend un peu de poussière ou tu veux pas le dépoussiérer? Puis, lis dedans, j'ai des enseignements que je voudrais t'aider à comprendre. Donc, l'Esprit Saint vous guidera vers la lecture. Ça fera une partie importante de son œuvre. Le troisième point après lit, c'est quoi?
Réfléchis.
Réfléchis, c'est quoi l'image?
Avec
son, sur le 3 comme une oreille. Et une fois qu'on a réfléchi, qu'est-ce qu'il reste encore à faire?
Transformer en prière.
Que ce qu'on a compris, qu'on puisse voir comment l'appliquer dans la prière. Et après la prière, le cinquième point?
Agir.
On va agir. Alors vous reprenez votre graphique. On va voir plus précisément quels sont ces points. Premier point, c'est prie pour que Dieu t'aide à comprendre ce que tu vas lire. Invite l'Esprit Saint à te guider pendant ce temps. Le but, quand on lit la Bible, n'est pas d'abord d'apprendre des éléments techniques. C'est de découvrir une histoire, de découvrir une culture, c'est vrai, mais en lien avec notre vie, en lien avec ce que nous vivons. La Bible est un lieu de rencontre entre ce que nous vivons et ce qui a été vécu et enseigné par Dieu avant. Ensuite, il y aura le deuxième qui sera « Lis le texte du jour dans la Bible ». Alors, le texte du jour, par exemple, pour « On est aujourd'hui le 23 ». Ça serait quoi le texte du jour dans notre plan de lecture? Alors, Genèse 24 ou bien ou et Acte 23. D'accord? Donc, vous voyez. Et comme je vous ai dit, vous allez l'adapter à vous, si vous en avez la possibilité, lisez les quatre textes. En suivant ces conseils. Si vous vous dites, j'ai pas beaucoup de temps, sur les cinq conseils, je peux faire que le numéro 2, je vais lire les quatre textes. Comme ça, je vais dire, ouais, j'ai lu tous les textes tous les jours. Je serai triste de cela. Parce que le but, c'est pas de faire un concours. Le but est de méditer et d'appliquer la parole de Dieu. Je préfère que vous lisiez un texte et que vous fassiez ces cinq étapes de prier avant, de lire, de méditer, de prier par rapport à ce que vous avez appris ou lu, et ensuite d'agir en conséquence. Je préfère de loin cela à un champion du monde de la lecture rapide qui va lire toute la Bible en très peu de temps. Le but est très limité. À part si vous avez envie de vous prouver quelque chose, je ne sais pas. Mais ça n'apportera pas grand-chose. Et pour le Seigneur, ça n'apportera pas grand-chose. Si vous lisez tous les textes du jour en les méditant et en les priant, super. Et là, je dirais encore mieux. Mais rappelez-vous ces cinq conseils, je vous encourage à les mettre en pratique sur chaque texte que vous lisez. De vous habituer à méditer. De vous habituer à ce que la parole de Dieu fasse partie de vos journées, de vos prières et de vos actions. Donc après avoir lu le texte du jour, le troisième point, c'est réfléchir à ce qu'on a lu. Réfléchis à ce que tu as lu. Comment on réfléchit? On se pose la question, quelles sont les personnes du texte, par exemple? Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu? Que ce soit le Père, Jésus ou le Saint-Esprit? Le troisième point, ça va être, y a-t-il un ordre dans ce numéro 3? Un bon exemple à suivre? Est-ce qu'il y a quelque chose que je suis invité à faire? Je sens que c'est pour moi, que c'est appliqué. Est-ce qu'il y a un avertissement, un mauvais exemple à éviter, des choses qu'il ne faut pas faire? Et ensuite, y a-t-il une promesse? Y a-t-il un encouragement pour moi? Et que j'accueille cet encouragement. Une fois que vous avez réfléchi à ces points, transformez en prière. Venez devant Dieu. S'il y a quelque chose dans votre vie qui a besoin d'être changé, vous allez prier, demander pardon peut-être. Vous allez peut-être louer, dire votre reconnaissance envers Dieu, ou bien faire des demandes. Demandes par rapport à des situations concrètes de votre vie. Ça sera le numéro 4. Le cinquième point, ça sera agis selon ce que Dieu t'a montré. Nous ne pourrons jamais souligner assez cet élément d'agir. Vous pouvez des fois venir à Christ en vous disant « J'ai donné ma vie à Jésus, je lui ai dit qu'il est le Seigneur et Sauveur de ma vie, je me suis mis à genoux, j'ai prié, ça y est, je suis sauvé. » Et après, je m'en vais. Je vais continuer à mépriser mon prochain, à dire du mal, à écouter des choses tordues et à ricaner de choses qui sont à la honte de Dieu. À faire des choses qui ne sont pas justes. Mais j'ai mon salut, j'ai mon ticket pour le ciel parce qu'un jour, je me suis mis à genoux et puis Dieu, il a dit, celui qui confesse de sa bouche que je suis Seigneur sera sauvé. Et là, dans ce cas-là, je vous dirais, vous avez oublié un petit détail. Il n'est pas écrit, celui qui a confessé de sa bouche que je suis Seigneur est sauvé. Il est écrit, celui qui confesse présent de sa bouche le Seigneur est sauvé. Dans le livre d'Ézéchiel, il est dit, le juste qui a été juste et ensuite qui est tombé dans le péché, quand le jugement viendra, sera condamné. Et le pécheur qui s'est détourné de son péché, qui s'est mis en ordre devant Dieu et qui est venu à lui, lui sera sauvé. Est-ce que ça veut dire que ça ne sert à rien de se préoccuper du passé? Est-ce que ça veut dire que finalement, c'est pas très intéressant? Je vous avais raconté l'histoire d'un rabbin qui disait « Il vous suffit de vous repentir de vos péchés la veille de votre mort. » C'est tout ce qu'il est nécessaire. Pas besoin avant, juste la veille de votre mort, et puis c'est bon. Et vous tournez vers Dieu et vous avez votre ticket pour le ciel. Il y a quelqu'un qui vient voir le rabbin, vous avez peut-être certains se rappellent de cette histoire, et puis disent « Rabbin, il y a un problème. » Comment toi tu sais le jour où tu vas mourir? Et le rabbin sourit et lui dit, c'est là la question. Repends-toi aujourd'hui et marche avec Dieu. Vous ne saurez jamais le jour où la mort vous prendra. Elle peut vous prendre petit, elle peut vous prendre adulte, elle peut vous prendre à un âge avancé, vous ne le saurez jamais. Pour ma part, par exemple, je suis dans la quarantaine. Là où j'habite, à la Bretagne, on est dans une maison mitoyenne. On est deux familles avec un mur mitoyen dans une même maison. D'un côté, il y a Sandra et moi. De l'autre côté, il y a une autre famille qui a changé. Jusqu'à décembre de l'an dernier, c'était une autre famille. Un couple avec un petit bébé. Ce monsieur avait exactement mon âge. Il avait la quarantaine. Et juste avant Noël, il a eu une crise cardiaque. Il est mort. Sa femme, devenue veuve, est rentrée en métropole. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, est-ce que je suis à l'abri d'une crise cardiaque? Même avec toutes les bonnes choses que mon épouse me fait en essayant d'éviter le cholestérol. Vous savez quoi? On peut mourir demain. Et c'est un rappel pour nous de dire, mettons-nous en ordre devant Dieu. Essayons de ne pas mettre les choses importantes après, en disant plus tard. En disant plus tard, c'est une façon de vous préparer à la catastrophe. Pour votre foi, mais pour les autres aussi, parce que votre fidélité à Dieu va être une bénédiction pour ceux qui sont autour de vous. La semaine, juste avant Noël, il y a eu un autre accident. C'était là, l'histoire que je vous racontais, c'était il y a une année. Le 20 décembre, qui se rappelle de Alain, le monsieur malgache qui est venu l'année dernière à l'église? Vous vous rappelez de lui? Le 20 décembre, Alain était sur une moto. Quatre motards le suivent. Ensuite, il ne se rappelle de rien. Il se retrouve à l'hôpital. Il se réveille après 5 jours de coma, le crâne fracassé, la mâchoire détruite, les mains inutilisables, et avec les médecins qui disent à sa famille 2% de chances de survie. Emporté en hélicoptère à Saint-Pierre, 2% de chance de survie. On a été le voir avec Sandra ce jeudi. On a prié avec lui, il était aux larmes. Si vous le voyez, vous avez l'impression qu'il a vieilli de 10 ans. Il se rappelle de très peu de choses. Petit à petit, il se rappelle de sa famille. Un groupe de gens violents ont quasiment détruit une vie en quelques minutes. Piqué la moto, tout, bien sûr, en quelques minutes. Qui d'entre nous est à l'abri de ça ? Je ne suis pas en train d'essayer de vous faire peur, en train de vous dire n'utilisez pas la moto. Je suis en train de vous dire, est-ce que si vous devez mourir demain, vous êtes en ordre avec Dieu ? Est-ce que vous avez mis les bonnes priorités dans votre vie ? Est-ce que vraiment, vous pouvez dire, je suis en paix avec Dieu ? Ça m'a frappé de rencontrer cet homme qui est, je dirais, dans la fleur de l'âge, il a la quarantaine, Alain. Fleur de l'âge, j'ai 40 ans, donc pardon. Certains diront la fleur de l'âge, c'est plutôt la vingtaine. Bon, j'étais touché et Alain nous disait, c'est Jésus qui m'a sauvé. C'est Jésus qui m'a sauvé, je ne mérite pas. Il n'était pas en train de râler contre ces gens qui l'ont presque tué. Il disait, je suis reconnaissant que Dieu m'ait gardé en vie. Et j'étais touché par cela, parce que quand il nous arrive des pépins, on a deux options. Soit on va râler en disant, ouais, moi je mérite quelque chose. On est dans une culture où on dit, je mérite. Je mérite de l'argent, je mérite du respect. Soit on dit, je suis un pauvre bibi, je suis un petit, mais Dieu m'aime. Et je suis reconnaissant de son amour. Et j'étais touché de voir cet homme qui est à un passage de sa vie qui n'est pas facile, et qui est en train de dire, je bénis Dieu, parce que je crois qu'il m'a gardé en vie. Et sa famille a pris soin de lui, c'est sur le bois de Nef où il est, son frère l'a recueilli, ils ont appris par la radio, je ne sais plus si c'était par la, non pas par la radio, je crois, non c'est sa femme qui a appris depuis Madagascar qu'il n'était pas là, elle a téléphoné à la famille, qui a cassé la porte de la maison pour voir s'il était là. Il n'était pas là. Et ensuite, ils se sont renseignés aux hôpitaux et ils ont appris qu'il était là. Quel drame. Est-ce que vous croyez que moi, je suis plus fort ? Que ça ne m'arrivera jamais ? Non. Ça peut m'arriver demain. Ce n'est pas une question d'être fort. Des fois, il y en a qui disent « Oh, moi, j'ai fait tout ce qu'il faut et donc, je n'aurai aucun souci. » Dieu, si je le prie, si je lis mes 4 chapitres de la Bible tous les jours, je suis protégé. J'ai ma super protection tout autour. La question de Dieu n'est pas de vous donner une super protection. Protection de quoi ? Ce que Dieu veut vous donner, c'est la protection ultime, la protection contre la mort éternelle, la séparation de celui qui est notre Créateur. Et je dirais, dans la Bible, nous aurons une nourriture pour notre âme, pour que notre âme ne dépérisse pas et ne meure pas, mais qu'elle soit nourrie et que nous puissions grandir. C'est mon encouragement pour vous, un encouragement pour cette vie. Et j'aimerais vous lire quelques éléments. Alors, gardez bien ces trois éléments. Je vous encourage à les mettre en pratique et je vais essayer pendant l'année de vous accompagner dans cette lecture en adaptant par exemple la prédication à un des 4 textes qui sont en cours d'être lus. Ou bien, pour les études bibliques, vous encouragez à lire un des chapitres qui va être lu. Le mardi, on avait fait des études bibliques, tout le monde se regroupait. Cette année, je vais encourager à ce que chaque famille soit une famille d'accueil pour étudier la parole et pour pouvoir la vivre en famille. Et donc, par exemple, j'ai déjà parlé avec Dominique, je lui ai dit « Dominique, j'aimerais que chez toi, à partir de cette année, si possible, tu puisses faire une étude biblique à la maison. Et si vous avez des questions, je suis toujours au service de vous, en particulier de ceux qui organiseront chaque groupe. Par exemple, Pierre et Juliette, je vous dirais, et vous ? Vous ne pourriez pas organiser une étude biblique chez vous ? Entre vous d'abord et peut-être inviter d'autres. On pourra parler peut-être Frédéric et Anton, peut-être Marie, peut-être même Thierry et Sandrine, si vous le souhaitez. Je suis là pour vous servir et l'Église est là pour vous servir, pour que vous grandissiez dans la parole de Dieu. Donc on peut en parler après le culte, si vous avez des questions, si vous dites ça marcherait peut-être, mais comment ? Je suis là pour vous encourager à ça et je vous dirais, utilisez ça comme un plan pour vous aider à savoir où on est, pour qu'on avance ensemble. Pour que vous ayez l'impression que ce que vous faites, les autres font un petit peu pareil et qu'on avance ensemble dans la parole de Dieu, dans la Bible, et nous apprenons ensemble. J'aimerais maintenant vous lire quelques textes bibliques. quelques textes des psaumes. Je vais commencer par le psaume 19. Je vous lis. Au chef de chœur, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, leur voix n'est pas entendue. Leur trace apparaît sur toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a placé une tente pour le soleil, et celui-ci, semblable à un époux qui sort de sa chambre, se réjouit comme un héros de parcourir sa route. Il s'élance d'une extrémité du ciel et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa parole, à sa chaleur. C'est les versets 1 à 7. Ces versets 1 à 7 parlent de la création de Dieu, de la merveilleuse création de Dieu, avec les cieux, avec le soleil, avec la terre. Et la deuxième moitié va parler de la parole de Dieu, de l'enseignement de Dieu. Et quand, à chaque fois dans l'Ancien Testament que vous entendez « loi », que vous lisez « loi », le terme hébreu, c'est « Torah ». Torah, ça veut dire « enseignement » d'abord. Le malheur, c'est que ça a été traduit de l'hébreu au grec en « nomos », parce que les Grecs n'avaient pas ce concept d'enseignement où il y a des règles, mais qu'elles sont transmises dans une relation, dans un dialogue. Et donc, ils ont mis « nomos ». Et ensuite, en français et dans d'autres langues, on a traduit par « loi », qui est assez étriqué. La loi, c'est des trucs « ne fais pas ci, ne fais pas ça », etc. Un enseignement, ça va être des encouragements, des mises en garde, transmettre une sagesse, un dialogue, une relation qui va vous faire grandir. Donc chaque fois que vous entendez « loi » dans l'Ancien Testament, c'est toujours le mot « Torah » qui est utilisé. Donc moi je préfère lire « enseignement » et je vais vous lire « enseignement » chaque fois qu'il y a « loi » car c'est plus cohérent par rapport à l'original du texte. « L'enseignement de l'Éternel est parfait, il restaure l'âme. » Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toujours justes. Plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin. Plus douces que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti. Pour qui les observe, l'avantage est grand. Qui connaît ses fautes involontaires? Pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve ainsi aussi ton serviteur des présomptueux qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de péché grave. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Vous voyez comment dans ce texte, des versets 8 à 13, le psalmiste, très probablement David, médite la parole de Dieu, médite l'enseignement de Dieu, et remplit de cet enseignement pour savoir comment répondre. Parce que quand on vient à la foi, on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est la foi, qui est Dieu. On vient avec des idées préconçues. Et si vous vous dites, est-ce que j'ai une idée de Dieu qui est vraiment claire ou pas? Je vais vous donner une réponse. Non, elle n'est pas claire et elle n'est pas parfaite. Elle a à être éclairée et approfondie pendant toute votre vie. Moi-même, ma compréhension de Dieu est limitée. C'est pour ça que je lis la Bible, que je prie et que je demande à Dieu de m'aider à comprendre davantage. Dimanche dernier, le responsable de notre groupe d'église, Chenchi, est venu et nous a rappelé l'importance de la prière extraordinaire. Je me suis dit, oh Seigneur, oui, de prier toujours plus. Parce que des fois, j'entre dans un train-train. Tout comme nous, on peut entrer dans un train-train. On va lire la Bible, on va faire ce qu'il faut. Alors soyons clairs, je ne fais rien d'horrible dans la semaine. Mais la prière, je me rendais compte, n'a pas une place assez importante. C'était devenu un peu mécanique. Et je me suis rendu compte, oh Seigneur, aie pitié de moi. Je veux entrer dans une prière toujours plus sérieuse avec toi parce que j'ai besoin que tu m'enseignes. Que tu m'apprennes toujours mieux qui tu es, comment toi, tu fais grandir ton église. Et je veux être rempli de toi. On a toujours à apprendre. Je crois que vous avez à apprendre, chacun d'entre vous, et que j'ai à apprendre. C'est pour ça que nous lisons la Bible et que nous prions. Nous sommes ensemble en train d'apprendre. Il n'y en a pas un qui est devant qui dit « Moi j'ai tout compris et je vais vous expliquer. » C'est pour ça que le psalmiste va dire Aie pitié de moi, reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur. Le désir de cet homme qui prie, c'est vraiment qu'il apprenne à parler avec les paroles de Dieu, qu'il soit rempli de l'amour de Dieu pour pouvoir le communiquer à d'autres. Parce que qu'est-ce qu'on va communiquer si on n'est pas rempli de paroles de Dieu et de l'amour de Dieu ? Si on est rempli des affiches de publicité, on va dire quoi ? Change ton forfait, passe de Orange à SFR ? On va dire quoi ? Regarde, la nana, elle est super, super jolie, achète cette voiture parce que tu auras la nana si tu achètes cette voiture. De quoi est-ce qu'on va être rempli ? Qu'est-ce qu'on va communiquer aux autres ? Est-ce qu'on va être rempli, comme ce qu'on dit à la réunion, de l'a dit, l'a fait, regarde ce qu'il a fait lui, c'est pas bien et tout, je vais te raconter, je vais répéter ? Ou est-ce qu'on va être rempli de l'amour de Dieu, de dire, est-ce que je peux prier pour toi, t'encourager ? Est-ce que tu veux que je t'aide sur tel point ou qu'on s'aide pour tel autre ? Est-ce que ça va être une communauté dans laquelle on grandit ensemble ? Ou est-ce que ça va être une communauté qui va dire, eh, regarde, j'ai un téléphone, il est mieux que le tien ? Ou, telle voiture, j'aimerais bien avoir cette voiture. Ou tel plat pour faire la cuisine. Oh, si seulement j'avais ça, vraiment, je serais heureux. Il n'y a aucun bonheur dans ce monde pour celui qui cherche dans les choses matérielles. Qu'il soit riche ou pauvre, il n'y a pas de bonheur dans ce monde dans les choses matérielles. Nous sommes des êtres sociaux. Dieu nous a créés pour la relation humaine. Dieu nous a créés pour les relations. Quand nous n'avons pas d'harmonie dans nos relations proches, nous serons malheureux. Nous pourrons dire ce qu'on veut, nous serons malheureux. Et la relation que je dirais qui devra être première, ça sera Dieu. Plus vous serez heureux dans cette relation, plus ça va avoir un impact, ça va faire tache d'huile. Et la parole de Dieu sera un élément important. Je vous invite à voyager dans la Bible, toujours au psaume 119 maintenant, en commençant par le verset 11. Verset 11, « Je serre ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Je serre ta promesse dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. À travers la Bible, Dieu va vous donner des promesses, des encouragements, des choses qui vont vous rassurer dans votre vie de tous les jours, dans vos défis qui sont liés à votre situation, qui sont uniques à chacun d'entre nous. Et vous allez trouver des paroles pour vous. Mais si vous ne lisez pas, vous n'aurez pas d'encouragement. Vous n'aurez pas de promesses à serrer dans votre cœur. Vous serez un cœur vide qui peut devenir aigri, désespéré, triste, amer. J'aimerais qu'on continue ce survol rapide et vous inviter au verset 105, verset 105 du psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole, verset 105 du psaume 119. Verset 105 du psaume 119. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds. Si vous marchez et qu'il n'y a pas de lumière autour de vous, qui vous dit que vous n'allez pas tomber dans un trou ? Dans la nuit, vous n'êtes jamais assuré que vous n'allez pas tomber. On a besoin de lumière, quoi que nous fassions. Il y a même une blague qui dit, il y avait un homme qui, dans la nuit, était en train de chercher au pied d'un lampadaire. Autant, il y avait des lampadaires encore, il n'y en avait pas tant que ça, donc il y avait beaucoup de ténèbres. Maintenant, il y a des lampadaires partout, dans certains endroits de Saint-Denis, donc il n'y a plus de ténèbres. Autant où il y avait encore des lampadaires tout seul, et puis il n'y avait que là où il y avait de la lumière. Et le monsieur était en train de chercher en bas du lampadaire, en train d'essayer de trouver quelque chose. Il y a un deuxième monsieur qui vient et qui lui dit « Bonjour monsieur, bonsoir, vous cherchez quelque chose ?»« Oui, je cherche mes clés. Est-ce que vous voulez que je cherche avec vous ?»« Oui, je veux bien. » Alors il cherche une minute, puis le monsieur qui est arrivé lui dit « Est-ce que vous vous rappelez où vous les avez perdus ?» Il lui dit « Oui, je me rappelle, c'est là-bas. » Le gars le regarde, lui dit « Attendez, vous les avez perdus là-bas et vous cherchez ici, pourquoi ?»« Ah bah parce que c'est ici qu'il y a de la lumière. » Sans lumière, vous ne pouvez pas chercher. Vous allez tâtonner dans le noir. Vous allez être vous allez risquer de vous casser les dents, de souffrir inutilement pour beaucoup de choses. Est-ce que vous voulez vous casser les dents dans votre vie? Est-ce que vous voulez passer votre vie dans le noir et vous dire, mais il n'y a rien qui marche dans ma vie? Tout va de travers. Ah! Si tout va de travers, c'est qu'il y a un manque de lumière. Je dirais, c'est tout simplement ça, c'est qu'il y a un manque de lumière. Cette lumière vient de l'Esprit de Dieu, vient des enseignements qu'il va vous aider à comprendre à travers la Bible, à travers votre relation avec Dieu. Ne manquez pas ce tournant, ça peut être un changement dans nos vies, de prendre au sérieux la parole de Dieu et de la mettre en pratique. J'aimerais continuer ce survol avec juste quelques textes. On va passer à Hébreux. Avant Hébreux, on va aller au chapitre 2 de Timothée, chapitre 3, verset 15. 2 Timothée 3, verset 16, 2 Timothée 3, verset 16. Attendez, j'ai dû me... 2 Timothée... 3:16. Je vous lis. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu, que la femme de Dieu, que l'enfant de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Comment est-ce que vous allez faire des œuvres bonnes si vous ne savez pas ce que c'est qui est bien? Oh, le monde, il va vous dire ce qui est bien. Il va vous donner des conseils. Il va vous dire, ce qui est bien, c'est tu vas protéger les phoques au pôle Nord et puis tu vas soutenir telle tâche. D'accord, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Le monde moderne, vous savez ce qu'il vous dit? Oh, ce qui se passe chez toi, c'est ta vie privée, tu fais ce que tu veux. C'est quoi ça? Ça va vous amener à quoi ça? Où est-ce que vous allez apprendre à aimer si ce n'est dans votre vie privée d'abord? Le but de Dieu, ce n'est pas de fouiller, il connaît tout, il est le créateur. Mais c'est de dire, l'amour commence dans votre foyer, dans vos familles. C'est là que va rayonner l'amour de Dieu. Ne commencez pas au loin, commencez chez vous. C'est à notre porte que les transformations que Dieu veut faire débutent. Dans nos pensées secrètes, dans nos relations intimes, entre mari et épouse, avec les enfants, avec les parents, avec les gens proches. C'est là que l'Évangile veut toucher en premier, pour qu'il rayonne, pour qu'il, comme des ricochets ou comme une pierre qui tombe dans l'eau et qui fait des petites vagues qui vont aller très loin. Ça, c'est ce que Dieu veut. Encore faut-il que cette parole de vie entre au profond de nos vies, pour nous transformer. J'aimerais encore finir ce petit survol de quelques textes bibliques par le chapitre 4 de Hébreux. Hébreux, chapitre 4, le verset 12 et 13. Je vous lis ce texte. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Nous aurons à rendre compte de comment on a utilisé les dons dont nous bénéficions. Parce que nous voulons être fidèles à Dieu, tout comme nous voulons que les gens qui dépendent de nous soient fidèles. Par exemple, si vous avez des enfants, et imaginons que vous donniez à un enfant un joli jouet qui a coûté vraiment une somme significative. L'enfant le prend juste après Noël, et au lieu de jouer avec, il le casse en tapant sur du bois ou en tapant sur sa petite sœur, par exemple. Est-ce que vous, en tant que parent, vous allez dire « Oh, ça va bien, t'as pas à rendre compte, tu peux faire ce que tu veux avec, vraiment, si tu veux même, je te rachèterai le même l'an prochain. » Non, non. Vous voulez que les gens soient cohérents. Vous voulez que ceux que vous allez aider, encourager, votre encouragement, ils ne le mettent pas à la poubelle, ou le cadeau que vous faites, qu'il soit utilisé pour quelque chose qui vous semble bon. Si nous, en tant que parents, ceux qui sont parents, voulons que les enfants rendent des comptes finalement de la façon dont ils utilisent les dons que nous leur faisons, combien plus notre Père Céleste veut que nous lui rendions compte de notre façon d'utiliser tous les dons qu'il nous fait. Il nous invite à dire, Seigneur, montre-moi le chemin que je dois suivre. Il nous invite à lui parler, parce que c'est un Père aimant. Dieu, Jésus, il a eu besoin de rappeler aux gens, parce que des fois on s'imagine Dieu, c'est un Père méchant et tout. Jésus, il leur disait, vous savez, nous qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Combien plus votre Père qui est aux cieux vous donnera de bonnes choses. Et dans l'évangile de Luc, il mentionne en plus, demandez l'Esprit Saint. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'enseignant, c'est celui qui va vous enseigner, qui va vous aider à comprendre la Bible, qui va vous aider à mettre en pratique, à prier, à vivre votre foi de manière victorieuse. Quand je vous parle d'une foi victorieuse, je ne vous parle pas d'une foi qui obtient des choses. Ah, cette année, j'ai dit à Dieu, donne-moi ça et moi je ferai ça. Attention. Imaginez votre enfant qui vous dit, maman, si tu me donnes une voiture, je ferai tout ce que tu veux. Et votre enfant a 7 ans et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il va faire ? C'est pas un don qui va être adapté pour le moment où il est. Malgré tout l'amour du parent, il ne va pas donner ce qu'il sait ne pas être bon pour nous. Et ça, c'est une question de sagesse. C'est en étudiant toujours plus la parole de Dieu, en priant, en discernant que Dieu va nous montrer ce qui est bon pour nous. Ça, c'est un moment qu'on n'aime pas. On aime bien dire, je sais, moi, ce qui est bon pour moi. On n'aime pas qu'on nous dise. Hein. Et je vais vous dire, ce n'est pas à moi de vous le dire non plus. C'est à Dieu à travers sa parole de vous le dire. Sa parole écrite, sa parole vivante, Jésus-Christ, sa parole prêchée. Et quand je suis en chair, je ne prêche que la parole de Dieu. Je ne suis pas là pour vous dire ce que je pense par rapport à tel politicien. Je suis là pour représenter Dieu du mieux que je peux. Et Dieu vous invite en cette année 2011 à vivre cette année comme une année de la parole de Dieu. Je vous y invite et j'aimerais vous inviter à finir par un temps de prière comme nous le faisons. Donc ce temps de prière, je vais m'asseoir et prier dans votre cœur pendant 2 minutes, ça sera un silence. Priez dans votre cœur et répondez à ce message, cette invitation qui, je crois, vient de Dieu, à intégrer la parole de Dieu dans votre vie, dans votre esprit, dans votre cœur, dans vos actions, dans vos foyers, dans tout ce que vous faites. Je vous invite à prier et à parler à Dieu. J'ai essayé de vous donner quelques outils que nous utiliserons pendant cette année, et je vous invite à prendre un temps avec Dieu pour lui dire où vous en êtes, pour parler avec lui et lui remettre les choses qui vous semblent importantes. Finissons maintenant, je prie une seconde, et ensuite nous aurons 2 minutes de silence où vous êtes invités à répondre à Dieu, à parler à Dieu à ce sujet. Seigneur Jésus-Christ, tu es la parole de Dieu. Tu es le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Nous voulons que tu deviennes vraiment toujours plus le Roi de nos vies, que tu sois le Seigneur dans nos vies. Nous ne voulons pas, Seigneur, qu'un jour, tu viennes et qu'on dise, Seigneur Jésus, et que tu nous dises, mais je ne connais pas, et qu'on te dise, mais on a chassé des démons en ton nom, on a fait des guérisons, et que tu nous dises, je ne vous ai jamais connu. C'est dans la prière, dans l'étude de la parole, que nous allons apprendre à te connaître. Aie pitié de nous, parce que tu donnes une sécurité, une assurance à celui qui est fidèle, chaque jour, à celui qui est fidèle dans son quotidien. Tu lui dis, ne vous inquiétez pas, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tu ne dis pas, j'ai été avec vous, tu ne dis pas, vous avez été sauvés, mais tu nous dis, celui qui se tourne vers moi, qui invoque mon nom, à lui est le salut. Que chaque jour de notre vie, Seigneur, nous ayons un cœur ouvert à toi, à ton amour, afin que ce salut soit une assurance, une conviction simple et profonde, par la puissance de ta parole à l'œuvre dans nos vies. Maintenant, prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre Seigneur. Apprends-nous à t'aimer, à être sérieux dans notre foi et à ne pas être des hypocrites qui d'un côté disent que tu es notre Seigneur et dans nos vies concrètes, on te met à la dernière place, comme la cinquième roue du carrosse. Donne-nous de t'honorer dans notre vie concrète, que nous trouvions des façons créatives, originales, adaptées à chacun de nos emplois du temps, pour vraiment t'honorer, pour vivre en communion avec toi, pour vivre cet amour que tu nous invites à recevoir, à accueillir, à transmettre dans ce monde. Ce monde qui a terriblement besoin d'un amour vrai, d'un amour sincère, d'un amour qui transforme. Ton amour, Seigneur Jésus-Christ, guide-nous en tant qu'Église, guide-nous en tant qu'individu. En ton nom, nous prions, Seigneur Jésus. Amen.